En ce dimanche où nous avons l'occasion de reconnaître un ministère d'enseignement, il m'a semblé utile de pouvoir nous tourner vers un exemple, vers une personne qui a eu un ministère d'enseignement et qui nous est présenté dans l'Écriture. Et comme Mathieu Richel est professeur d'Ancien Testament, il m'était difficile d'aller trop dans le Nouveau Testament. Je me suis dit pour aujourd'hui, on va faire honneur aussi à Mathieu en prenant un personnage de l'Ancien Testament. Je vous rassure quand même, ça c'est pour les professeurs de la faculté, je ne prêche pas sur l'Ancien Testament que les jours où Mathieu est présent, où il y a quelque chose de spécial pour lui. Hein. On essaye d'enseigner tout le conseil de Dieu quand même. Et donc je vous invite à lire dans le livre d'Esdras, au chapitre 7, les 12 premiers versets. Esdras 7, les versets 1 à 12, pour quelques réflexions sur notre participation à l'œuvre de Dieu. On a décrit tous les événements qui, depuis la première vague de retour de l'exil jusqu'à la construction et la dédicace du temple, se sont passés à Jérusalem. Après ces choses, nous est-il dit, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, vint Esdras, fils de Seraïa, fils d'Azaria, fils de Ilkija, fils de Shalom, fils de Tzadok, fils d'Achitoub, fils d'Amaria, fils d'Azaria, fils de Mejaroth, fils de Zerachia, fils d'Uzi, fils de Bouki, fils d'Abishua, fils de Phinès, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le souverain sacrificateur. Cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des lévites, des chantres, des portiers, des nétiniens vinrent aussi à Jérusalem, la septième année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au cinquième mois de la septième année du roi. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois. Il arriva à Jérusalem le premier jour du cinquième mois, car la bonne main de son Dieu était sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de Dieu et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Et voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras, sacrificateur et scribe, enseignant les commandements et les lois de Dieu concernant Israël. Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, etc. Il y a toutes les instructions données à Esdras. Et verset 25, il est dit, « Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui ne les connaîtraient pas. Quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné à la mort, au bannissement, à une amende ou à la prison. Et l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi, c'est Esdras qui parle ici, a glorifié ainsi la maison de l'Éternel, qui m'a rendu l'objet de sa bienveillance, de ses conseillers et de tous ses puissants chefs. Fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu qui était avec moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partent avec moi. » Dieu, nous l'avons dit, nous appelle à son œuvre. Comment prendre notre place dans l'œuvre que Dieu fait? Comment avoir une action, une influence qui puisse d'une manière ou d'une autre compter? Nous avons tous à cœur d'être utile à quelque chose, d'être utile à Dieu s'il le veut bien. Comment prendre notre place? Nous assistons ces dernières semaines dans notre monde à des bouleversements historiques, quasiment en direct. Et l'on pourrait se dire, prendre sa place, c'est finalement être là au bon endroit, sur la bonne vague, pour surfer sur cette vague au bon moment. Guetter peut-être l'occasion, saisir le moment, trouver le geste, ne pas manquer l'ouverture. C'est certain, dans la marche de l'histoire, il y a des moments décisifs à ne pas manquer. Le livre d'Esdras s'ouvre justement sur l'un de ces moments où tout s'accélère soudain. Cyrus, roi de Perse, renverse l'empire babylonien. Et dans tout l'empire perse désormais souffle un vent d'ouverture. Les Juifs en exil à Babylone et dans les autres provinces entendent soudain un édit du roi inimaginable. Le roi Cyrus dit, c'est dit au chapitre 1, verset 3, « Qui d'entre vous est du peuple de l'Éternel, le Dieu des cieux ? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda, qu'il bâtisse la maison du Seigneur, le Dieu d'Israël. » Dieu a agi, on le voit, conformément à ce qu'il a promis. L'histoire est en marche. C'est beau, c'est trop beau, on croit rêver. Le psaume 126 dit « Nous étions alors comme ceux qui font un rêve. Notre bouche était remplie de chants d'allégresse. » Et c'est ainsi que 42 000 exilés prennent la route vers Jérusalem. Un nouvel exode, un nouveau départ, une ouverture à ne pas manquer, la promesse d'un avenir tout neuf. On rêve tous. On rêve tous de vivre un jour quelque chose comme cela. Être porté par le souffle d'un événement qui change tout et qui nous ouvre des horizons inespérés. Ah, si Dieu fait quelque chose comme ça dans ma vie, c'est sûr, j'avancerai. Je m'engagerai, je prendrai ma place. Parler ainsi, c'est faire un petit peu un raisonnement de chrétien surfeur. On attend la vague, l'action de Dieu, il faudra saisir le bon moment, prendre la crête de la vague et on pourra avancer. Attendre que Dieu fasse de grandes choses et embrayer de suite. Deux remarques simplement. J'ai été très surpris, il y a quelques années, de lire sous la plume de Marek Alter qu'apparemment, les 42 000 qui ont saisi l'occasion de ce grand renouveau, de cette grande offre du roi Cyrus, les 42 000 qui ont saisi cette occasion et sont retournés de l'exil représentaient à peine 10% des Juifs exilés en Babylone, d'après les calculs qui ont été faits sur le nombre d'exilés. Tous les autres sont restés. Tous les autres sont restés. Autrement dit, nous avons le désir que Dieu agisse, que Dieu fasse de grandes choses. Et nous avons envie de nous laisser porter par la vague de cela. Mais si cette action, quand elle survient, nous oblige à quitter nos sécurités, à laisser ce dans quoi nous sommes quand même un peu installés, sommes-nous sûrs que nous saisirons l'occasion ? Sommes-nous sûrs que nous sommes prêts ? À avancer. S'inscrire dans ce que Dieu fait est souvent engageant. Attendre la vague, oui, mais être prêt à laisser ce qu'il faut laisser et à nous engager là où il faut s'engager. C'est une première remarque. La deuxième remarque est que pour tous ceux qui sont partis portés par le souffle des promesses de Dieu qui mettait l'histoire en marche. Pour tout cela, les choses ne se sont pas passées comme sur un tapis qui se serait déroulé tout seul devant eux. Il a fallu, pour ceux qui sont rentrés, 23 ans pour rebâtir le temple, dont 16 années où tout s'est arrêté, à cause de l'opposition, à cause du découragement qu'a suscité cette opposition. Il faudra un réveil sous l'impulsion d'Agé et de Zacharie pour qu'on arrive au bout de la tâche. Mais ensuite, chacun est retourné dans sa maison, dans ses habitudes, dans une petite vie assez désabusée finalement, sans Dieu, dont témoigne le prophète Malachi. L'élan des grandes promesses s'est essoufflé pour une bonne partie de ce peuple. Et quand on est ici au chapitre 7 du livre d'Esdras, où une nouvelle vague va pouvoir repartir, on se retrouve 80 ans après le retour de l'exil. Et si peu s'est construit, et si peu s'est vraiment consolidé. La génération boostée par l'accomplissement des promesses a eu du mal avec la persévérance. Et elle a eu du mal aussi avec le principe de réalité qui veut que l'œuvre même de Dieu se fraye souvent un chemin dans le monde au prix de combats et de combats qu'il faut mener avec ténacité. Il faut mener dans la foi en Dieu, dans l'espérance et dans la constance. Comment prendre notre place dans l'œuvre que Dieu fait? Avec Esdras, qui apparaît ici au chapitre 7 du livre qui porte son nom, nous avons en quelque sorte l'antimodèle des surfeurs sur la vague de l'action de Dieu pour entrer dans le plan de Dieu. Esdras va prendre sa place efficacement, constructivement, pour l'affermissement du peuple de Jérusalem. Il est intéressant pour nous de voir comment cela s'est fait. Que découvrons-nous? Nous découvrons d'abord un homme à la généalogie impressionnante. Vous l'avez vu, il est un peu difficile de lire tous ces noms. Nous n'avons pas moins que 16 de ses ancêtres. Et au bout de 16 de ses ancêtres, qui sont sélectionnés parmi toute la liste, on en arrive à rien de moins qu'Aaron lui-même, le frère de Moïse, le premier grand prêtre au service du sanctuaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire qu'il faut un pédigré bien estampillé pour entrer dans l'œuvre de Dieu? Je ne crois pas que c'est cela que veut nous dire ce texte. Cette généalogie montre qu'Esdras était prêtre et qu'il a été prêtre en exil où il n'y avait pas de temple. Et certains diraient certainement, un prêtre sans temple, un peuple sans temple, plus d'identité, plus de repères, plus de présence de Dieu parmi son peuple. Et ce que nous découvrons, c'est qu'Esdras, le prêtre, en exil sans temple, n'a pas pensé comme cela. Son repère, qu'a-t-il été? Son repère, ça a été, il nous reste, nous avons la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. En exil, sur une terre étrangère, il s'est attaché à la parole donnée par Dieu. Les livres de la loi et probablement les écrits de certains prophètes ont pu être emportés jusqu'en Babylonie. Avec d'autres, Esdras, en terre étrangère, a valorisé ce patrimoine. Il s'y est attaché. Il n'était peut-être plus possible d'offrir des sacrifices, il n'était plus possible d'aller au temple. Mais l'obéissance, la fidélité à Dieu, le respect du Seigneur, cela restait possible. Et tout était donné par la loi de Dieu, par les écrits qui étaient là. Et l'obéissance, on le sait bien, vaut mieux que les sacrifices. Et c'est ainsi que s'est développée en terre étrangère la conscience que l'on peut servir Dieu, qu'on peut lui rendre un culte, qu'on peut lui être agréable en cherchant à le connaître, à lui plaire, en toutes sortes de circonstances, par la simple obéissance à sa parole, par l'étude de sa loi, par véritablement l'intégration de cette parole dans la vie quotidienne. Et si je pense à ce que j'ai dit tout à l'heure, à ceux qui pensent que pour entrer dans le plan de Dieu, il faut absolument surfer sur la vague d'une grande nouveauté qui se fait, nous avons ici d'une certaine façon l'anti-surf. En toutes circonstances, il n'y a pas de vague de l'histoire qui porte ici, on est en exil. On est presque plutôt au creux de la vague que sur le sommet de la vague. Mais même dans cette situation, on peut chercher les ressources qui demeurent, s'y attacher, les valoriser. Au lendemain de la déportation, certains exilés avaient décidé de suspendre leur harpe au sol pleureur qui bordait les rivières de Babylonie. Comment chanterions-nous les cantiques du Seigneur sur une terre étrangère? C'était juste après la déportation, on comprend leur désolation, on comprend ce geste. Heureusement que ce n'a pas été l'unique ni la dernière attitude des exilés. Esdras et d'autres ont découvert qu'ils pouvaient même en exil continuer à marcher fidèlement avec Dieu, à le servir, à l'aimer, en s'appropriant la parole qu'il avait donnée. Et c'est ainsi qu'Esdras est devenu, nous dit le texte, un scribe versé dans la loi de Moïse donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le mot scribe, semble ici renvoyer quand même à une fonction un peu nouvelle, une fonction qui en tout cas se développe d'une manière nouvelle. Le terme en lui-même décrit quelqu'un qui écrit. Il est dit par exemple que Baruch était le scribe de Jérémie, le prophète. C'est lui qui a mis par écrit les paroles que Jérémie avait adressées. Dans bien d'autres textes, le mot scribe est employé dans un sens un peu plus politique, le secrétaire. Mais ça décrit le secrétaire du roi, dans un sens assez proche de ce que nous appelons les secrétaires d'État. Mais ici, avec Esdras, le scribe est quelqu'un qui tout particulièrement se consacre vraiment à l'étude, se consacre à la compréhension, à l'enseignement de la loi de Dieu. En Israël, avant l'exil, il revenait aux prêtres d'enseigner la loi. Et on a l'impression que souvent, ils ont plutôt accompli leur devoir cultuel que ce devoir d'enseignement, parce que souvent les prophètes doivent reconnaître que cette fonction d'enseignement n'est pas accomplie. Il revenait aussi aux anciens et aux juges d'appliquer cette loi pour trancher les situations concrètes. Cela s'est fait, comme j'ai dit, de manière plus ou moins heureuse. Mais il semble bien que c'est en exil que s'est déroulé et développé un travail de vrai spécialiste pour préserver, copier, comprendre, faire comprendre la loi donnée par Dieu à son peuple. Esdras, en tout cas, apparaît ici comme quelqu'un qui est quasiment un spécialiste. On dit qu'il était versé dans la loi de Moïse. Versé dans la loi de Moïse. Il l'avait étudiée, il la connaissait, on pouvait le consulter en toute confiance. Il y avait là un travail qui a demandé beaucoup d'application. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Il n'y avait pas non plus d'imprimerie pour avoir des livres autant qu'on en voulait. Quand on voulait avoir un texte, il fallait le copier. Le copier à la main, ça demandait énormément de soins. Quand on voulait connaître un peu ce que disait la loi, on n'avait pas de moteur de recherche pour chercher une référence, ou pour chercher un mot, ou pour chercher des textes. Il fallait avoir tout cela dans sa tête. Il fallait savoir dans quel manuscrit chercher, vers quel texte aller. Ça demandait une connaissance approfondie des textes pour pouvoir enseigner tout le conseil de Dieu. S'il fallait vérifier véritablement les choses, il fallait beaucoup travailler, bien connaître. Il faut dire que nous avons aujourd'hui des outils magnifiques pour connaître bien des choses. Et je pense que assez souvent, ces outils nous font paraître plus savants que ce que nous sommes véritablement. Voyez un pasteur en études bibliques sans sa concordance, il arrive parfois qu'on cherche un peu où est le vrai verset qu'on a en tête. On essaye d'y arriver. Esdras, lui, a dû vraiment travailler lui-même de très près le texte. Et il s'est appliqué à ce travail pour devenir quelqu'un qui était versé dans la loi de Moïse. Il a été un spécialiste. Mais il n'a pas été simplement un bon professionnel. Le texte nous parle d'une autre application. Il nous est dit, Esdras avait appliqué son cœur à étudier, à mettre en pratique la loi de Dieu et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances de Dieu. Et voilà ici une belle devise pour un enseignant. On s'applique d'abord. On s'applique, on est déterminé pour la tâche. On reste ferme dans ses dispositions, dans son travail. Il s'était appliqué à étudier. Il en faut parfois de cette ténacité, de cette application pour aller jusqu'au bout de l'étude. On applique son cœur. Appliquer son cœur, c'est-à-dire son intelligence, mais aussi sa volonté, son amour pour le Seigneur. On s'applique troisièmement à étudier. On ne lit pas juste superficiellement. On ne se contente pas d'à peu près. Il faut approfondir. Il faut être précis. Il faut donner du vrai, du solide. Et cela en demande parfois de l'application, des recherches, du temps. Des recherches pas toujours fructueuses du premier coup. Ça demande aussi l'effort de l'honnêteté. Le fait d'intégrer des choses que l'on a du mal immédiatement à mettre dans notre esprit. de l'honnêteté, du travail sur le détail, la lutte pour tout intégrer. Oui, s'appliquer à étudier. Mais, nous dit ce texte, on étudie, mais pas simplement pour enseigner aux autres. Et c'est intéressant de voir ici que Esdras a appliqué son cœur à étudier et, nous a-t-il dit, à mettre en pratique la loi de Dieu. Là, il est question de lui-même. Il est question de lui-même. Il est question de sa propre vie. Et ça nous rappelle que la parole de Dieu n'est jamais simplement un objet d'étude ou d'enseignement pour les autres. Elle doit rester pour nous cette parole vivante, cette parole qui nous rencontre dans ce que nous vivons, cette parole qui nous bouscule, cette parole qui nous reprend, cette parole qui nous encourage aussi dans ce qu'est notre vie concrète et qui nous invite à l'obéissance concrète. Esdras a étudié, s'est appliqué à mettre en œuvre pour lui-même la parole. Et puis résolument, il a eu ce souci d'enseigner au milieu d'Israël. Et là, il s'agit d'instruire et de nourrir le peuple de Dieu, d'aider ce peuple dans ce qu'il vit, de répondre à ses besoins, de lui donner les orientations dont il a besoin, en accord avec la parole donnée par le Seigneur. Enseigner au milieu du peuple, ce sera aussi parfois enseigner contre certaines choses qui se font. Rappeler les normes de Dieu par rapport à certaines conduites qui ne sont pas dans le bon sens. Reprendre, et Esdras devra le faire. Mais Esdras, le scribe, Esdras, le spécialiste versé dans la loi de Moïse, aura ce souci de partager ce qu'il sait, ce qu'il découvre, et de le partager avec le peuple de Dieu. Et ici, c'est d'abord le peuple de Dieu en exil, en Babylonie. Le peuple de Dieu avec ses combats, avec ses difficultés, avec ses découragements peut-être. Ce sera ensuite le peuple de Dieu à Jérusalem, où il faudra faire face à la situation concrète qu'il rencontre là-bas, avec son histoire. Esdras, le spécialiste, n'est pas dans une bulle. Il est au contact, il va au contact. Il a le souci du peuple de Dieu. Nous avons la joie de reconnaître aujourd'hui le ministère pastoral d'enseignement de Mathieu Richel. C'est un ministère pastoral d'enseignement parce qu'il est au service du peuple de Dieu, de sa croissance, de son édification, de sa formation, de son approfondissement. C'est un travail de spécialiste, oui, à bien des égards. Et mon souci et mon souhait pour toi, Mathieu, comme pour chacun d'entre nous qui avons une tâche de formation ou d'enseignement, c'est que comme Esdras, cette tâche avec toutes ses exigences reste toujours l'expression d'une vie avec Dieu, d'un amour pour Dieu, dans l'ouverture au Seigneur, pour être nous-mêmes en tout premier repris, conduit plus loin, conduit dans l'obéissance, dans le souci du peuple de Dieu dans son ensemble. Voilà pour cette description d'Esdras, le scribe, dans cette fonction particulière qui est la sienne. Mais je reviens à ma question du début, parce que je ne suis pas venu parler seulement à quelques-uns d'entre nous. Comment prendre ma place dans l'œuvre que Dieu fait ? Esdras, me semble-t-il, nous donne ici une clé. Une partie d'Israël est en exil. Pour ceux qui sont à Jérusalem, les choses ne vont pas très fort. On est donc dans un moment où il ne se passe pas grand-chose de décisif. Que reste-t-il à faire ? Il reste une chose à faire. C'est ce que fait Esdras, s'appliquer. Appliquer son cœur à la marche quotidienne avec Dieu. Appliquer son cœur à la fidélité à Dieu, là où on se trouve. Appliquer son cœur à la recherche de Dieu dans sa parole pour vivre avec lui ce que l'on a à vivre, pour être nourri, renouvelé, guidé en vue du quotidien qui est le nôtre. Esdras, le prêtre, ne s'est pas effondré parce qu'il n'y avait plus de temple pour le culte. Il n'a pas déclaré forfait parce qu'on était loin de tout, loin de ses racines, loin des hauts lieux de l'histoire. Son message à ses compagnons d'exil, même après des années d'exil, a été « Il vous reste la parole que Dieu vous a donnée, attachez-vous à vivre selon cette parole. Il reste la possibilité de marcher avec Dieu, faites cela fidèlement, appliquez-vous à cela. » Faites-le avec cœur aussi. Faites-le là où vous vous trouverez. Ce n'est pas la peine de gémir sur le monde qui vous entoure, sur la société païenne dans laquelle vous avez à vivre. Vous avez mieux à faire que de gémir sur tout cela. La parole de Dieu peut vous renouveler. La parole de Dieu peut vous inspirer. Laissez-vous irriguer, laissez-vous conduire par cette parole pour qu'elle soit une source pour votre vie de tous les jours. Autrement dit, si on voulait reprendre ici des paroles de Jésus, on dirait « Que votre lumière brille devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos belles œuvres, qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Comment entrer, prendre notre place dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre que Dieu fait, en cherchant jour après jour, quelle que soit notre situation, à nous appliquer, à connaître, à vivre selon cette parole. Et la recette est encore bonne aujourd'hui, je crois. Mais je suis sûr que peut-être vous dites, est-ce que ce n'est pas un tout petit peu misérabiliste tout cela? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu en train de jouer plutôt dans la catégorie des lots de consolation en disant, oui, si on ne peut rien faire d'autre, si rien de chose se passe, on va quand même essayer de rester fidèle à la parole de Dieu, il nous reste ça. L'exemple personnel d'Esdras me semble ici éclairant par rapport à ce que cela peut donner. Que se passe-t-il pour ce scribe appliqué à son travail de scribe et à sa vie de fidélité quotidienne envers le Seigneur et envers son peuple en exil? Il se passe qu'un jour, de manière totalement inattendue pour les hommes, le roi de Perse, Artaxerxès, décide de développer une stratégie de fidélisation de ses provinces par l'octroi d'une liberté plus grande pour chaque peuple de développer son identité et sa culture. Le roi de Perse est prêt à ce moment-là à faire des gestes forts pour marquer cette politique dont le but est double, donner un peu plus de liberté, mais pour se rattacher un peu plus la fidélité. Et avec fidélité, les impôts et tout ce que cela veut dire. Le roi veut favoriser des lois adaptées à chaque peuple afin de faire appliquer aussi la loi du roi. Vous l'avez vu au verset 26, il sera condamné celui qui n'applique pas la loi de Dieu et celui qui n'applique pas la loi du roi. Ça, c'est le but du roi de Perse. Et donc, parce que le roi de Perse a cette perspective, il cherche des gens capables pour mettre cela en œuvre. Qui trouve-t-il en ce qui concerne les Juifs ? Il y a là, à Babylone, un scribe versé dans la loi du Dieu des cieux, Esdras. Et c'est tout naturellement à lui que l'on s'adresse. Et voilà, au détour de l'histoire, un tournant inattendu dans la vie d'Esdras le scribe. Le roi lui donne pratiquement un chèque en blanc. Que faudrait-il faire ? Pour favoriser le culte du Dieu des cieux, comme il l'appelle. Heureusement qu'il y a là un homme d'expérience, un homme qui a donné pendant toute sa vie priorité à la marche avec Dieu, qui a étudié, qui a enseigné, qui sait quels sont les besoins profonds du peuple de Dieu, qui est reconnu. Et Esdras pourra donc faire des suggestions très concrètes au roi. Et le roi lui accordera ce qu'il lui avait demandé, c'est dit au verset 6, hein, « Parce que l'Éternel, son Dieu, était avec lui, le Seigneur lui accorda tout ce qu'il avait demandé. » Esdras a eu liberté de faire des propositions dans le cadre de cette politique nouvelle. Esdras, parce qu'il a cultivé cette connaissance de Dieu, parce qu'il a cultivé cette étude de la loi, aura toutes les capacités nécessaires à bien infléchir cette nouvelle politique à faire en sorte qu'elle puisse devenir vraiment l'occasion d'une refondation spirituelle pour le peuple. Il aura aussi l'autorité morale et spirituel nécessaire pour faire avancer les choses. Il sera fort d'une pratique de compétence pour enseigner. Alors il ne s'agit pas de généraliser un exemple particulier et dire que ça va arriver à tous ceux qui sont prêts à se mettre vraiment à l'étude de la loi de Dieu. Mais je crois que nous pouvons en tirer un principe et un encouragement. Il vaut la peine pour tout le monde, il vaut la peine pour nous tous de nous former, de nous appliquer, de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, de la laisser nous travailler, de la laisser nous mûrir. Car nous ne savons pas ce qui peut se passer. Nous ne savons pas ce qui peut se passer. Comme Esdras ne savait pas qu'un jour il y aurait cette initiative du roi de Perse. Si jamais Dieu décide d'une opportunité, il s'agit que nous soyons prêts pour cette opportunité du Seigneur. Et c'est vraiment l'une des fonctions de la parole de Dieu. Pour les spécialistes, comme pour chacun d'entre nous, elle doit nous rendre aptes, nous rendre prêts à toute bonne œuvre. L'apôtre Paul le dit à Timothée, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et apte à toute œuvre bonne. » Il y a là des objectifs particuliers de la parole de Dieu. Elle doit enseigner, convaincre, corriger. Et il y a aussi des objectifs plus généraux. Former une personne accomplie, une personne riche d'une maturité spirituelle, et former une personne qui puisse être prête à toute bonne œuvre, prête à ces utilités inattendues qui surviennent parce que Dieu agit, comme il l'a fait là au temps d'Esdras. Et ces occasions de Dieu qui recréèrent alors des hommes, des femmes en bon état de marche, des hommes et des femmes disponibles, des hommes et des femmes en bonne relation avec Dieu, des hommes et des femmes capables, des hommes et des femmes préparés. Esdras le scribe, par son souci de la parole, par son application à la parole, a été de ces gens-là prêts pour le bon moment. Il ne se doutait pas, en s'appliquant à étudier, qu'il serait un jour convoqué chez le roi, qu'il prendrait la tête de tout un groupe d'exilés pour Jérusalem, transportant plus de 3 tonnes d'argent au milieu de toutes sortes d'embûches. Il n'imaginait pas du tout cela lorsqu'il s'est appliqué à étudier. Nous ne savons pas non plus ce que Dieu peut réserver pour nous, ce à quoi il peut nous appeler, ce à quoi nous pouvons être utiles, en petit ou en grand, nous ne le savons pas. Mais l'important n'est pas là. L'important est d'être prêt. Prêt à toute bonne œuvre. Et pour être prêt à toute bonne œuvre, nous avons besoin de cette parole vivante en nous, qui nous nourrit, qui nous dirige, qui nous met dans une dynamique quotidienne d'obéissance. Être prêt pour toute belle œuvre, c'est ma prière pour chacun de nous, quelles que soient nos situations, nos responsabilités. C'est notre vœu aussi pour toi, Matthieu, que tu sois prêt à toute belle œuvre auquel le Seigneur pourra te convier. Appliquons notre cœur à la parole, à l'obéissance de chaque jour, à la formation, à la transformation de notre être, pour que nous soyons les uns et les autres, les hommes et les femmes accomplis et prêts à toute bonne œuvre. Amen.